Comme à chaque vendredi, c'est un plaisir de retrouver Esther Bégin qui est là depuis New York. Bonjour Esther, comment ça va?
Bonjour Nicolas, ça va très bien. Comment ça va de votre côté?
Très bien, merci. Mais on voit qu'au niveau écart de température, ça prend du volume entre Montréal et New York.
Il fait froid à Montréal?
Ben assez froid. Écoute, on parle de moins 10 encore à l'heure actuelle. On devrait osciller de mercure, voire le mercure en tout cas osciller autour du 1 degré, peut-être moins 1 degré aujourd'hui. Mais on voit déjà que depuis quelques jours, j'en parle chez l'émission depuis déjà un petit moment, au moins une semaine ou deux, ben, l'écart commence à être plus considérable justement entre Montréal et New York, alors qu'à quelques semaines auparavant, en février, c'était assez similaire. Mis à part la neige, vous avez été moins avantagé que nous cette année, non?
Effectivement, parce que, en fait, on a eu beaucoup de neige. C'est un hiver qui était neigeux à New York, mais oui. Là, depuis, en fait, il a fait vraiment beau cette semaine. Mm-hmm. Il fait froid hier quand même ici.
Ah oui?
C'était aux alentours de 0 degré, ce qui est un peu exceptionnel.
Oui.
Même en bas de zéro, je te dirais, peut-être moins 3 degrés. C'est assez exceptionnel pour ce temps-ci de l'année à New York, mais il fait un soleil magnifique. Il fait vraiment très beau.
Bien.
On est chanceux.
Oui, absolument. On a hâte d'aller faire un tour là-bas d'ailleurs.
Ah oui.
Entre-temps, c'est une bonne nouvelle, je pense, une des bonnes nouvelles depuis longtemps. Esther, on dit que la situation de l'emploi s'améliore au pays, aux États-Unis, donc depuis quelque temps.
Oui, parce que on sait comment est-ce que ça a été difficile depuis 2 ans et demi ici aux États-Unis. Mais on apprenait hier que le nombre de nouveaux chômeurs aux États-Unis est tombé à son niveau le plus bas depuis la fin du mois de mai 2008, la semaine passée.
Bien.
Selon donc des chiffres qui ont été rendus publics hier par le département du travail, il y a 368 000 demandes d'allocation de chômage qui ont été déposées la semaine dernière entre le 20 et le 26 février.
Uh-huh.
C'est 5,2% de moins que la semaine d'avant. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que avant les chiffres de l'emploi qui vont être révélés aujourd'hui, on peut présumer que le marché du travail est en train de s'améliorer aux États-Unis, est en meilleure forme au mois de février qu'il l'était le mois avant.
Mmh.
Et c'est important ce qu'on va avoir comme chiffre aujourd'hui parce que ça va donner le portrait vraiment de la situation aux États-Unis parce que le dernier chiffre qu'on a eu, les derniers indicateurs, étaient au mois de janvier, mais on parlait de la météo tantôt.
Oui.
On a tellement eu toutes sortes de tempêtes, de températures bizarres partout aux États-Unis au cours du mois de janvier.
Oui.
Ça vient fausser un peu les données sur l'emploi parce que, si on se rappelle de l'immense tempête de neige qu'il y a eu dans tout le secteur de la région de Chicago, il y a des gens qui ont été qui ont arrêté de travailler.
Absolument.
Ils travaillent pendant des jours et des jours. Donc, c'est des contracteurs qui peuvent pas engager, c'est des sous-contractants qui peuvent pas travailler. La température a un effet direct
sur
les chiffres du monde de l'emploi aux États-Unis.
Mm-hmm.
Alors, on attend ça avec beaucoup d'impatience aujourd'hui parce que ça va donner un réel portrait. Le portrait du mois de février, ça va être plus conforme à ce qu'est la réalité américaine. Alors, très certainement que le président et tout le monde attend ça avec beaucoup d'impatience.
Absolument, une note positive.
Ça s'améliore.
Oui, justement, une note positive, Esther. Puis, ça peut donner de l'élan à des investisseurs aux États-Unis qui étaient peut-être hésitants jusque-là. Ça peut avoir un bel effet boule de neige, sans mauvais jeu de mots, là.
Oui, et surtout, Nicolas, je te dirais qu'on le sent ici qu'il y a une reprise. Je ne dis pas que c'est immense, là, mais on sent qu'il y a un début de commencement de reprise. Oh, c'est plus même qu'un début de commencement. Il y a une reprise de confiance dans l'économie américaine. Et ça fait sentir partout.
Ah oui.
C'est plus agréable.
Ça a des effets gagnants.
Exact.
Du gagnant-gagnant. Tant mieux. Il y a la course à l'investiture républicaine pendant ce temps-là qui commence à prendre forme, elle.
Ben oui, un premier candidat qui se déclare depuis le temps qu'on en parle.
Oui.
Qui se demande qui va affronter Barack Obama pour les présidentielles de 2012. C'est donc un vieux de la vieille du côté des républicains, Newt Gingrich. Les gens, on le connaît parce que, c'est un artisan de la nouvelle droite américaine dans les années 90. Il a donc annoncé hier qu'il va explorer une candidature à la Maison-Blanche.
Oh.
Il a dit qu'il allait se présenter.
Oui.
Il dit qu'il est en train d'explorer. Il a formé un comité exploratoire.
Mm-hmm.
Newt Gingrich, c'est l'ex-président de la Chambre des représentants à l'époque de Bill Clinton. C'est donc le premier candidat républicain à officiellement déclarer ses intentions pour 2012.
Mm-hmm.
Il a 67 ans. Il a donc dit qu'il entrait dans une phase exploratoire en vue de se présenter en 2012. Il a lancé un site Internet également. Il dit qu'il veut voir s'il y a assez de soutien pour présenter sa candidature. Dès qu'on le connaît, il est très connu chez les Républicains, Newt Gingrich, parce que ça a été l'architecte en 1994 de la défaite des démocrates du président Clinton aux élections de mi-mandat. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, si tu te rappelles de ça.
Oui.
Mais vraiment, le président Clinton, un démocrate, avait perdu les deux chambres, mais ça avait été une cuisante des...
Ah oui, tout à fait.
94, deux ans après être entré à la Maison-Blanche.
Mm-hmm.
Alors, il est vraiment connu pour ça. Il était le président de la Chambre. Son nom aussi est vraiment associé à la fermeture des services de l'administration américaine en 1995 et en 96, qu'on appelait le shutdown.
Ah oui.
À cause des désaccords avec la présidence sur le budget à l'époque.
Mm-hmm.
Alors, il était vraiment vu comme le responsable du shutdown du gouvernement. Donc, Newt Gingrich, un premier candidat qui dit qu'il est peut-être potentiellement intéressé. Évidemment, il y a d'autres noms qui circulent, Mike Huckabee, Mitt Romney.
Oui.
Mitch Daniel aussi, qui va être à surveiller, le gouverneur de l'Indiana.
Mm-hmm.
Sarah Palin, qui se laisse désirer, mais plus ça va, moins on pense qu'elle va se présenter. Elle semble intéressante. Elle semble plutôt intéressée à se présenter. Donc,
mm-hmm.
candidat en vue de l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2012.
Bien, mais ça va faire jaser à tout le moins dans les foyers. C'est toujours intéressant. Et ça aussi, c'est un aspect que j'adore du côté des États-Unis. C'est ces éternelles discussions vers l'avenir, hein, poussées vers l'avenir, où on s'y prend d'avance, d'abord pour les candidats. Esther, on sera d'accord. Et ça alimente énormément les discussions dans les foyers, au travail également.
Ah,
donc, on voit loin.
Ça fait parler énormément. Et c'est l'artisan de la nouvelle droite américaine dans les années 90.
Ben oui.
C'est un conservateur, c'est un homme polarisant. Il suscite énormément de réactions. Évidemment, Sarah Palin aussi a fait énormément jaser dans les chaumières.
Mm-hmm.
Tu sais, Newt Gingrich, il y a tout l'aspect de sa vie personnelle. Tu sais, c'est marié trois fois.
Toute une histoire.
T'sais, la droite religieuse, un peu de misère avec sa candidature.
Oui.
c'est l'objet d'énormément de discussions aux États-Unis.
Bien. Esther, tu parlais du shutdown de 1995. On a pu l'éviter une fois de plus. Hein. En fait, le Congrès a fini par s'entendre pour éviter que, encore une fois, se produise la fermeture du gouvernement.
Exactement. Un sursis de deux semaines, il faut le dire. Là,
oui.
Parce que, là, maintenant, ça reporte l'échéance à la mi-mars. Les Républicains et les Démocrates avaient jusqu'à ce soir minuit pour s'entendre. Ils ont fini par trouver un accord, un compromis, pour éviter le shutdown du gouvernement, donc la cessation des activités de l'administration américaine. Évidemment, ça aurait eu des conséquences absolument néfastes sur l'économie américaine.
Oui.
Il y a eu un compromis entre la Chambre des représentants, qui, comme on le sait, est à majorité républicaine, et le Sénat, qui est de son côté aux mains des Démocrates, pour pouvoir prolonger le financement de l'administration, parce que les Républicains et les Démocrates s'entendent pas sur l'ampleur des coupures dans le budget américain pour tenter de réduire le déficit absolument faramineux du gouvernement des États-Unis, 1,6 trillion, c'est-à-dire 1 600 milliards de dollars de déficit pour une année financière, donc c'est absolument énorme. Donc, là, on s'est entendu, évidemment, je le disais, si on s'était pas entendu, les conséquences auraient été assez désastreuses. Ça veut dire qu'il y a, il y a des centaines de milliers d'employés fédéraux qui se retrouvent en chômage technique. Il y a des prestations d'aide sociale qui sont suspendues. Ça veut dire que les touristes sont refoulés aux portes des musées. C'est-à-dire, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui fonctionne au gouvernement. Donc, c'est lourd de conséquences, mais on a fini par s'entendre entre républicains et démocrates. Mais comme je te disais, c'est un sursis de deux semaines parce que ça fait que reporter l'échéance au 16 mars. En 1995 et en 96, il y avait eu tout un bras de fer comme ça entre les républicains et les démocrates. À l'époque, c'était avec Bill Clinton.
Oui.
Ça avait mené à la cessation des activités du gouvernement, de l'administration américaine deux fois.
Ah oui, hein.
5 jours et puis pendant 21 jours et ça avait été vraiment quelque chose. Mais il faut mentionner que c'était les républicains qui avaient porté l'odieux de cette décision-là, plus que les démocrates qui étaient à l'époque au pouvoir. Alors comme cette année en fait.
Oui, c'est vrai, l'histoire se répète en quelque sorte.
Oui, c'est ça, il faudra voir si jamais ça se produit, évidemment, ce choix du gouvernement-là, qui va en porter l'odieux. Est-ce que ça va être les démocrates qui vont être blâmés ou plutôt les républicains? Ce qui se dégage, parce qu'au début de la semaine, c'était pas évident qu'on allait en venir à un compromis. Et ce qui se dégageait dans les médias, c'est que les républicains étaient en voie d'être blâmés pour vouloir, en fait, on blâme les républicains de vouloir créer la cessation des activités du gouvernement. On dit que les républicains ne veulent pas que l'administration tourne, ne veulent pas que le pays marche, ils veulent juste embêter les démocrates. Donc, il faudra voir, évidemment, là, on a un sursis de 2 semaines, mais il faudra voir comment ça va se poursuivre à partir du 16 mars.
Absolument. Mm. Dans un autre ordre d'idées, maintenant, Esther, il y a l'acteur Charlie Sheen qui fait jaser de lui, par rapport à ses phrases qui sont partout dans les médias aussi, mais il tente de refaire son image. Apparemment, ça va très bien pour lui, mais sur Twitter.
Oui, exactement.
C'est un début.
C'est un peu surréaliste, Charlie Sheen, qui a donné... Écoute, bon, tu le dis... Il tente de refaire son image parce que bon, il y a des problèmes épouvantables étalés un peu partout. C'est un drug addict. Il est dépendant. Il souffre de dépendance à cette sorte de drogue, énormément de cocaïne. Il est privé de la garde de ses enfants. Il a été arrêté dans un hôtel de New York au mois de décembre en compagnie d'une prostituée. Mm. Il est accusé de violence conjugale sur plusieurs femmes. Alors, il a multiplié les entrevues cette semaine. Il a passé une partie de la semaine à New York. On l'a vu partout à la télévision, émission matinale à ABC, même chose à NBC. Il est allé dans les studios de CNN où il a accordé une entrevue d'une heure à Piers Morgan. Écoute, ça a donné lieu vraiment à des moments un peu surréalistes. Tu sais que Charlie Sheen, c'est l'acteur de la télévision américaine le plus payé. Il joue dans la série, en français, c'est Mon Oncle Charlie, qui s'appelle Two and a Half Men. Mm-hmm. Il gagne entre 1,2 million de dollars par épisode et 2 millions, parce que, bon, les sources sont un peu... varie là-dessus, mais au moins 1,2 million de dollars par semaine pour jouer dans cette série-là.
Assez payant, Esther.
Non, tu sais, je veux dire, visiblement, il a perdu contact un peu avec la réalité.
Oui. Hein.
Il dit que, bon, là, la série est arrêtée parce qu'il y a tellement de problèmes et il a critiqué ouvertement les producteurs de la série. Donc, dans ses entrevues, il disait, vous avez, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé, vous n'avez pas peur de mourir d'une overdose? Alors, il dit, non, il y a juste les imbéciles qui meurent. Moi, je suis trop malin pour ça. Vous savez, moi, j'en ai marre de faire comme si j'étais si j'étais pas quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un de spécial. Je suis désolée si ma vie est tellement plus amusante que la vôtre. Tu sais, vraiment, on avait l'impression qu'il en rajoutait, qu'il remplissait son cas, mais toujours est-il qu'il est devenu une immense vedette sur Twitter. Il a ouvert un compte mardi sur Twitter, et en moins de 48 heures, il y a eu 1,3 million d'abonnés, cours d'existence seulement.
Ça donne du poids, Esther, à des négociations pour un retour éventuellement.
Oui, bien, c'est ça. En plus, il a parlé de ses éventuelles négociations les prochaines saisons de Two and a Half Men. Mm-hmm. Et il dit on lui a demandé, les intervieweurs lui ont demandé, est-ce que c'est vrai que vous demandez que votre contrat soit négocié à la hausse, est encore plus payé? Puis il dit, vous savez, je parle pas de ça. Mais apparemment, il demande encore plus cher que entre le 1,2 et le 2 millions qu'il gagne par semaine.
Imagine.
Alors, c'est une bizarre de situation. En fait, disons que c'est un bizarre d'exemple à donner à la jeunesse aux États-Unis.
Absolument. Absolument. Puis c'est un succès qui est quand même indéniable. Donc,
c'est
un peu paradoxal tout
c'est
ça.
C'est un immense succès que cet acteur-là, mais qui est en train de faire. En fait, un fou de suie à la télévision. Oui. Et tu sais, ça fait longtemps là qu'il y a toutes sortes de problèmes qui sont étalés partout au grand.
Oui.
Alors, c'est ça. Il remporte. C'est une vedette de Twitter.
Exactement. Pendant ce temps, il y a des gens plus modestes, mais qui méritent toute notre attention, des artistes québécois, Esther, qui performent du côté de New York.
Oui, vous faites bien dire que c'est plus modeste. Les artistes au Québec, qui quand même, c'est pas facile là, de vivre de son art, que ce soit au Québec ou partout ailleurs. Mm. Mais il y a un gros événement actuellement aux États-Unis, mais à New York, ça s'appelle l'Armory Week. C'est une immense foire en art contemporain qui se poursuit jusqu'à dimanche. Et là, ça veut dire, tous les collectionneurs, les muséologues, les curateurs, un peu partout dans le monde, sont à New York pour acheter des œuvres d'art. C'est vraiment la grosse affaire ici. Et c'est le temps pour les galeries qui représentent des artistes de montrer les œuvres. Et il y a plein de galeries du Québec qui sont actuellement à New York pour exposer des œuvres d'artistes du Québec et tenter de les vendre à des collectionneurs, des curateurs de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une belle fenêtre pour des artistes du Québec. Il y a un gros événement ce soir, fait justement pour les artistes du Québec, où ils vont recevoir des collectionneurs, des curateurs et tout. Il y a plein de galeries. Je pourrais te nommer, bon, tu sais, je vais te laisser. Entre autres, il y a l'Association des galeries d'art contemporain du Québec qui va présenter des artistes dans une foire dans Upper West Side. Mm-hmm. Il y a plein d'artistes, Jean-François Lauda, Jean-Marie Martin, Manon Brouillette, Valérie Blas, qui sont exposés ici actuellement.
Bien.
Dans le cadre de cette foire de l'art contemporain-là, l'Armory Week. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'effervescence à New York en ce moment à cause de ça, mais c'est une belle opportunité aussi pour des artistes québécois de faire leur marque.
Ben, bravo, puis je pense qu'ils méritent toute notre attention, puis on les salue chaleureusement.
Que ça va marcher, hein?
Ben oui, tout à fait.
Qu'ils vont vendre, qu'ils vont trouver preneur, les propriétaires de les collectionneurs et les muséologues vont aimer leurs œuvres.
Voilà.
C'est ce qu'on souhaite, hein?
Souhaitons-le, notre signature qui est bien propre également, signature propre au Québec. C'est une autre bonne nouvelle et ça conclut ma chère Esther sur une très bonne note, hein, et de belle façon cette chronique pour aujourd'hui. On invite les gens à cliquer sur ton icône donc à tout moment pour réentendre cette chronique à chaque semaine.
Mm-hmm. Et puis je vais également la mettre en ligne sur mon profil Facebook.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Esther. Une excellente fin de semaine et à vendredi prochain.
À toi aussi, Nicolas, à tous tes auditeurs et auditrices.
Merci infiniment.
Bye bye.
Bye bye.